Oui, cette sœur d'Alexandre, qui n'était pas du même, la même mère, mais qui était du même père. Philippe, n'est-ce pas, était à la guerre. Et il était à la guerre avec les Thessaliens, les Grecs de la province de Thessalie. Et quand on lui a annoncé à son retour qu'il avait une fille, il a dit très bien, elle s'appellera Thessaloniki, victoire sur les Thessaliens. Elle a grandi, Cassandros l'a épousée. Il a fondé une ville qu'il a appelée Thessaloniki et qui s'appelle Thessaloniki jusqu'à aujourd'hui en Grèce. C'est la fameuse ville de Salonique. Les Turcs l'ont appelée Salonique, mais son vrai nom, les Grecs aujourd'hui encore l'appellent Thessaloniki, la sœur d'Alexandre. Bon, je passons maintenant à autre chose. Après Alexandre, un autre grand homme que j'ai adoré, vraiment, c'est l'empereur Julien. Bien plus tard, évidemment, nous sautons plusieurs siècles. Nous avons la domination de Rome en Égypte après 31 avant Jésus-Christ. Nous avons la domination de Rome qui s'étend partout, sous l'empereur Trajan. Elle s'étendait, l'empereur Trajan, c'est-à-dire 98, 117 après Jésus-Christ. L'empire romain s'étendait dans ce temps-là, depuis le golfe Persique jusqu'en Écosse, jusqu'à la muraille calédonienne. Entre ce que l'Écosse et l'Angleterre. Et puis ensuite, l'Empire romain continue naturellement, et puis vient un moment où il est coupé en deux. Il y a l'Empire d'Occident, capitale Rome, et l'Empire d'Orient, capitale Byzance. Ça, c'est à peu près à la fin du IVe siècle. 395, vous savez, l'empereur Théodose, mais il est un des derniers, n'est-ce pas, à avoir régné sur un empire uni. Il est mort le 1er janvier 395 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et l'empire a été coupé en deux. Il y avait un empereur, n'est-ce pas, qui a bien fait parler de lui. C'est Constantin. Constantin, né en 274, mort en 337. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire parler de lui? Pour qu'il devienne un saint dans l'Église orthodoxe grecque? Malgré sa vie qui n'a rien de saint, aucune sainteté, eh bien, il s'est fait chrétien en 313 et il a ensuite imposé le christianisme comme de religion d'État. Il a réuni le concile de Nicée, Nicée sur les bords de la mer de Marmara, avec 480 évêques et ces évêques ont proclamé que le credo d'Athanase d'Alexandrie, d'Athanase évêque d'Alexandrie, serait le credo pour tous les chrétiens. Il y avait naturellement beaucoup de chrétiens qui ne l'ont pas accepté. Ils étaient alors depuis ce temps-là hérétiques. Et puis Constantin est mort. Et Byzance s'est appelée depuis ce temps-là Constantinopolis, la ville de Constantin, Constantinople. Successeur de Constantin était justement un hérétique, Constance, son cousin. Cousin, attendez voir, son cousin, son neveu, un de ses neveux. Et cousin de Julien, nous allons arriver à Julien, mais il faut l'amener. Constance croyait à l'hérésie d'Arius. L'évêque Arius disait que Jésus-Christ n'était pas vraiment un Dieu, qu'il avait été créé, qu'il était d'une substance semblable à celle du Père, mais pas la même, alors que l'Église orthodoxe, l'Église d'Athanase, d'Alexandrie, disait qu'ils sont de la même substance. Voilà la différence. Une subtilité théologique, mais en fait qui était très importante, puisqu'elle a fait couler et beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Constance a régné quelques années. Et puis, à la mort de Constantin, craignant que les frères de Constantin ne prennent sa place, à lui, il la voulait. Le frère de Constantin, c'est-à-dire son oncle, à lui, il a fait massacrer ce frère et presque toute la famille de Constantin. Constance. C'est-à-dire en 337. Deux enfants. Julien, peut-être 8 ans, 7 ou 8 ans, et Gallus, un peu plus âgé de quelques années, ont survécu. Ils n'ont pas été massacrés dans cette horrible nuit de 337, du mois de mai 337. Je ne me rappelle pas. Je me savais autrefois, je ne me rappelle plus exactement la date du mois de mai. Ils ont été élevés, tous les deux, dans des couvents, aux mains de moines, naturellement. Ils ont passé leur jeunesse dans une forteresse de Cappadoce. La Cappadoce, c'est une province d'Asie mineure, qui s'appelle Macellum. Là, ils avaient un maître de littérature profane. Ils apprenaient les lettres grecques et latines. Et puis, ils avaient des maîtres moines qui leur apprenaient le christianisme et qui leur apprenaient, qui leur faisaient aller à l'église, naturellement, qui les élevaient en bons chrétiens. Ces moines étaient tellement fanatiques que le petit Julien, tout petit déjà, s'est senti leur ennemi. Il détestait cette religion. Et se disait, si je pouvais seulement m'en défaire. Ils ne sont pas restés toute leur vie à Macellum. Mais ils étaient déjà assez grands. Assez grands, même d'une vingtaine d'années, de plus de 20 ans, entre 20 et 30 ans. Quand Constance a enfin décidé de les libérer, il a nommé Gallus César et gouverneur des provinces d'Orient à Antioche. Et quant à Julien, il lui a donné la liberté de voyager en Grèce et en Asie mineure et où il voudrait. Évidemment, surveillé par des espions partout où il allait. Alors, ça, il l'a fait. Entre-temps, Gallus, soupçonné de rébellion, a eu la tête tranchée. Ordre de Constance. Julien savait heureusement dissimuler. Il a joué son rôle à la perfection. Comme les affaires de Gaulle marchaient très mal, que les Germains envahissaient la Gaule, ils l'envahissaient même assez loin dans les terres. Constance s'est décidée sur les conseils d'ailleurs d'un homme qui s'appelait Eusèbe, qui était le grand eunuque de la cour de Constantinople, parce que la cour de Constantinople avait des eunuques aussi, comme en Orient. Il y avait une très grande influence orientale à Byzance. Il a envoyé son nouveau César, Julien donc, le jeune Julien, en Gaule, avec l'idée que probablement il se ferait tuer, qu'il n'était pas capable d'être un chef militaire, et puis que ça serait fini. n'en serait débarrassé. Mais les dieux décident. Julien s'est montré un très bon chef militaire. Il était adoré de ses soldats. Et il a livré bataille aux Germains, sur les bords du Rhin, et ailleurs, en Gaule, les a repoussés, a fait prisonnier Cnodomar, un très grand chef germain. Il était admiré des Germains pour sa bravoure et pour son génie militaire, disons, et admiré de ses soldats aussi. Parmi ces soldats, il y en avait quelques-uns de chrétiens. Il y en avait la plupart qui étaient naturellement des adorateurs des anciens dieux. Julien, en attendant, avant d'être chef d'armée, du temps où il était un étudiant amateur, si disons, en Grèce et en Asie mineure, avait fait la connaissance d'un philosophe, Maxime d'Éphèse, qui l'a gardé auprès de lui, qui venait le visiter du moins très souvent. Certains disent que Maxime d'Éphèse était présent au moment que je vais vous raconter maintenant. D'autres disent que non. Nous ne savons pas. En tout cas, il y a eu des bêtises faites de la part de Constance. Constance a voulu, par exemple, amener en Asie, à la défense des provinces d'Asie, des soldats gaulois et celtes en général, qui étaient, et même des Germains, qui étaient au service de Julien. Cette armée s'est révoltée à Paris, à Lutèce. Lutèce qui portait le palais de l'envoyé de Rome, ou l'envoyé de Constantinople, sur l'île de la Seine. L'île de la Seine était le centre. Il y avait un peu d'habitation à droite et à gauche, des deux côtés du fleuve. L'armée s'est révoltée. Au cri de « Abat Constance, nous te voulons, toi, Julien, comme notre Auguste, c'est-à-dire notre empereur. » Il était déjà César. César ne veut pas dire empereur. César veut dire César, tout simplement. Mais Auguste, c'est le titre de l'empereur. Ce sont les légions. Les légions romaines, celtiques et germaniques, les légions qu'il commandait sur les bords du Rhin et en Gaule, qui l'ont fait empereur alors qu'il avait même pas 30 ans, il avait 26 ans. 26 ans. Et il paraît, selon certains livres que j'ai lus, selon d'autres noms, selon d'autres, il aurait attendu quelque temps. Mais selon certains historiens, il aurait tout de suite, au moment où il a été proclamé empereur, enlevé la croix et le lavarone, le drapeau de Constantin, le drapeau chrétien de la hampe, n'est-ce pas, du drapeau des légions, et mis à la place l'image du soleil. La famille de Constantin était une famille d'adorateurs du soleil. Constance Chlore, Constance le Pâle, Constance le Pâle, le père de Constantin, était un adorateur du soleil. Constantin l'avait été lui-même dans sa jeunesse. Julien l'était. Il trouvait que c'était certainement le plus grand des dieux. Il voulait restaurer les anciens dieux. Et il a dit à son armée, nous devons la victoire aux Olympiens. Les chrétiens ont murmuré, naturellement, mais ils étaient en minorité. Enfin, ça a été la religion gréco-romaine, la religion officielle de l'Empire du temps de Julien, à partir du premier jour de son règne. Le christianisme n'était pas persécuté. Julien n'a jamais persécuté les chrétiens. Il ne les a pas livrés au supplice. Il a fait mieux. Il a fait un édit comme quoi il aimait la tolérance et qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait des citoyens romains exilés pour leurs idées religieuses ou autres. Alors toutes les sectes hérétiques ou soi-disant telles, les sectes de l'évêque Arius, les Donatiens, les Monophysites, les tout ce que vous voudrez, toutes ces sectes, les Manichéens naturellement. Manichéens datent de 277. Ils existaient déjà. Toutes ces sectes sont en liberté et Julien a convoqué plusieurs réunions, soi-disant pour mettre la paix en eux, pour qu'ils discutent librement et qu'ils se séparent en paix des sectes de chrétiens. Dans son palais même, il les a convoqués. Et il regardait le spectacle d'en haut, le spectacle de ces hommes qui, par la controverse à la haine poussée, au nom du même Dieu, tous se maudissent. Et il a dit, voilà la manière qu'il faut faire pour tuer le christianisme. Pas besoin de supplice, il n'y a qu'à les mettre ensemble, ils se mangent entre eux. Il leur disait, les bêtes féroces sont plus miséricordieuses que vous. Et c'est vrai, et c'est vrai. Ce qui fait qu'il n'a pas pu rétablir les religions nationales d'Europe, c'est-à-dire la religion romaine à Rome et en Italie, les dieux grecs en Grèce et dans l'Orient, l'Orient méditerranéen, les autres religions, chacun la sienne, les Germains, naturellement, ils ne s'en occupaient pas. Ils étaient très contents de savoir qu'ils avaient aussi des dieux. S'il n'a pas pu rétablir tout cela, c'est uniquement pour une raison très simple. Il n'a régné que 3 ans. C'est le début de son règne, c'est 360, de l'ère chrétienne naturellement. La fin de son règne, c'est quand un javelot qui est venu de je ne sais quelle main. Certains disent que c'était un chrétien qui tenait ce javelot et qui se trouvait dans son armée quand il est allé en campagne contre Sapor, roi des Perses, qui était l'ennemi de Rome. Les Perses et les Romains se sont toujours battus. Eh bien, il était tué par ce javelot. En 363, il n'a donc régné à peine 3 ans. Et tout ce qu'il aurait pu faire s'il avait régné 40 ans, et nous pouvons l'imaginer, mais nous ne pouvons jamais le savoir parce qu'il n'a régné que 3 ans. Et 3 ans, c'est très peu de choses pour une réforme aussi complète que celle qu'il rêvait. Je l'ai admiré, et je l'admire encore, c'est un des grands hommes que j'aime le plus. Il a voulu revenir aux valeurs antiques, aux valeurs nationales, pas internationales, mais nationales, aux valeurs du sang et du sol. Les dieux ne sont en réalité pour chaque peuple que des membres de ce peuple magnifié. Un auteur allemand, Félix Dahn, le dit très bien dans son livre sur Julien, où il parle peut-être davantage encore des Germains de l'époque que des Romains et de Julien lui-même. Les dieux des Germains, les Wotan, les Donards, etc., c'étaient des Germains magnifiés. Les dieux des Grecs magnifiés. Les dieux des Gaulois magnifiés, etc. On adorait dans ces dieux l'idéal physique et moral de sa propre race et de son propre pays. Et je trouve ça très bien. Ça, c'est l'Antiquité Et ça, c'est aussi, eh bien, si vous voulez, une préfiguration de ce que le Führer a voulu. C'est aujourd'hui son anniversaire, et je vais bientôt parler de lui. En outre, une autre personnage que j'ai beaucoup aimé, et que j'aime beaucoup, non pas contemporaine de Julien, mais un peu plus tard, elle est née, c'est une femme celle-là, Hypatie d'Alexandrie, fille de Théon, le mathématicien. Elle-même, néo-pythagoricienne, philosophe, une femme philosophe. Elle est née en 370, c'est-à-dire 7 ans après la mort de Julien. Et elle est morte, déchiquetée vivante, lynchée, devant la porte d'une église, par des moines fanatiques et une population chrétienne fanatique en 415, à l'âge de 45 ans. Le comte de Lille lui a consacré un magnifique poème qui s'appelle Hypatie, dans les poèmes antiques. Et dans les poèmes antiques encore, un autre poème, un dialogue entre Hypatie et l'évêque d'Alexandrie de ce temps-là, Cyrille, dans lequel elle parle de Julien. Elle parle à Cyrille, qui lui parle, n'est-ce pas, de la mauvaise situation dans laquelle se trouvent les païens, les Hellènes, les adorateurs des anciens dieux à son époque, qui est déjà assez loin, évidemment, de l'époque de Constantin. Il y a déjà longtemps que le christianisme est une religion d'État, malgré les efforts de Julien qui a voulu le repousser. Va, ne mesure pas ta force à nos revers. Je sais à quel désastre assiste l'univers. Le noble Julien, succombant à la peine, m'instruit à confesser son espérance vaine. Ce que César tenta, je ne l'ai point rêvé. Contre ces dieux trahis, ce monde est soulevé. Là, le présent, l'avenir, la puissance et la vie sont à vous, je le sais, et la mort nous convie. Celles sont les paroles d'Hypatie dans le poème de Le Comte de Lille des poèmes antiques. Mais jusqu'à la fureur, pourquoi vous emporter? Jusque dans nos tombeaux, pourquoi nous insulter? Que craignez-vous des morts, vous de qui les mains pures s'élèvent vers le ciel, vierges de nos souillures? Et qui êtes, dites-vous? Et qui seul, dites-vous, être prédestiné à donner la sagesse au peuple nouveau-né? Efforcez-vous plutôt que nous jeter l'outrage, de chasser de vos cœurs la discorde sauvage. Et s'il est vrai qu'un Dieu vous guide, soyez doux, cléments et fraternels, et valez mieux que nous. Regarde, tout l'empire est plein de vos querelles. Quel jour nous voit germer quelques sectes nouvelles, depuis que Constantin, voilà bientôt 100 ans, dans Nicée, assemblant vos fers triomphants, et du temple nouveau pour mieux asseoir la base, contraignir le monde à la foi d'Athanase. Vains efforts, car l'ardeur de vos dissensions n'a fait que troubler le cœur des nations. Que la pourpre proscrive ou cache l'hérésie, portant dans vos débats la même frénésie, et par la controverse à la haine poussée, au nom du même Dieu, tous vous vous maudissez. Où sont la paix, l'amour qu'enseignent vos églises? Est-ce cela les leçons à l'univers promises? Et veux-tu qu'infidèle au culte des aïeux, je prenne aveuglément vos passions pour Dieu? Écoute, Cyrille, écoute-moi. Demain, dans 1000 années, dans 20 siècles, Qu'importe au nom au cours des destinées. L'homme, étouffé par vous, enfin se dressera. Le temps vous fera croître et le temps vous tuera. Et comme toute chose humaine et périssable, votre œuvre ira dormir dans l'ombre irrévocable. C'est ce qu'Hypatie lui dit à Cyril. Et en effet, c'est ce qui arrive. La foi au Dieu de la Bible, la foi à la religion sortie de la tradition juive, du moins fortement teintée de tradition juive, est en train de décliner. Dans 300 ans, où sera-t-elle? Je ne sais pas. Je n'ose pas le prédire. Et en effet, de nos jours, on peut quand même parler comme Julien beaucoup plus facilement qu'on ne le pouvait il y a seulement quelques décades. J'ai parlé comme Julien toute ma vie. On m'a rien fait. Même en Grèce. En Grèce, je me suis heurté au mur de l'Église orthodoxe parce que c'est l'Église nationale soi-disant. C'est lié au rêve de la reprise de Constantinople. Mais enfin, à part ça, on n'a rien fait. Alors que si ça avait été au Moyen-Âge, vous savez ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Et après, jusqu'au XIXe siècle, les derniers bûchers d'ennemis de l'Église ont brûlé au XIXe siècle. Tout de même que dans l'Empire romain, à cette époque dont je parle maintenant, 4e siècle et 5e siècle, il y avait des gens qui défendaient les dieux nationaux. Il y en avait un qui les a défendus, pas un. Tout un peuple les a défendus, ces dieux nationaux. Des peuples dans le nord de l'Europe. Quelquefois, j'ai dit que le grand Allemand, Arminius ou Hermann, qui a battu les légions romaines de Varus en l'an 9, a retardé de 8 siècles la christianisation et la latinisation de l'Allemagne. Et c'est vrai. Les Allemands étaient tranquilles, dans leurs forêts, dans leur pays primitif, mais grand, avec leurs idées, n'est-ce pas, qui remontent aux premiers âges, qui n'étaient pas dérangés, même conquis. Ils n'étaient d'ailleurs qu'à moitié conquis. Les Romains ne sont jamais allés au-delà de l'Elbe. Et les Romains sont vite partis. Ensuite, ce sont les Francs, ce sont d'autres, les tribus allemandes qui sont entrées en Gaule gallo-romaine et qui l'ont conquis et qui ont fait l'aristocratie de la France. D'ailleurs, le nom même de France, c'est le nom des Francs, c'est le pays des Francs. La noblesse française, c'était les descendants des Francs. Jusqu'à ce que au XVIe siècle, bien des siècles plus tard, il n'ait eu le début de la noblesse achetée. Mais au début, on n'achetait pas la noblesse. On naissait de 100 francs et on était noble automatiquement. On était de la race des conquérants. Charlemagne, fils de Pépin le Bref, du 8e siècle, 740, combien c'est, quelle est sa date de naissance? Je crois que c'est 740, mais j'en suis pas sûr. Il faudrait que j'ai mes livres ici, que je puisse les consulter. Malheureusement, je suis coupé de l'univers complètement. Je suis obligé de me rapporter à ma mémoire et elle me fait quelquefois défaut. En tout cas, Charlemagne a continué la politique de son père. Son père avait déjà été un champion du christianisme en pays franc et en pays germanique. Il était le contemporain de Boniface, un des premiers grands convertis de l'Europe du Nord. Et Boniface a pris de lui, de Pépin le Bref, une sorte de sauf-conduit qui lui permettait, en pays germanique, de faire tout ce qu'il voulait, avec impunité. Car si on le touchait, eh bien les armées de Pépin le Bref viendraient dévaster la région. Et cette histoire-ci, eh bien, elle m'a très impressionné dans ma jeunesse et même dans mon enfance, parce que je la connaissais dès l'enfance. Boniface est allé au pied d'un énorme chêne, un très beau chêne, un bel arbre plein de vie, qui donnait son ombre, et sous lequel se tenait le Thing, T-H-I-N-G, les réunions des hommes libres en pays germanique. Et devant la foule, outrée mais impuissante, il a coupé ce chêne à coups de hache. Il me semble que j'entends encore les coups de hache et que j'entends les craquements de ce bois sacré, ce noble bois de chêne. Il l'a coupé. Le chêne est tombé. Ses pauvres blancs branches, les unes dans les autres, enfin là, par terre. Il a pu faire ça parce qu'il avait la protection de Pépin le Bref, du père de Charlemagne. Et Charlemagne a fait pire que lui. Charlemagne, une fois qu'il a été chef de l'armée franque, a envahi l'Allemagne. Et il a, en 772,